Bonjour à tous, ici Louis pour RDWA. Aujourd'hui, nous accueillons Jean-Pierre Rambaud, président du collectif de défense de l'hôpital, pour nous entretenir justement de la situation de l'hôpital d'Eydie et des actions prises par ce comité pour sa défense. Monsieur Rambaud, bonjour.
Bonjour.
Avant de vous donner la parole, je voudrais préciser combien cette crise du secteur hospitalier public, qui ne concerne bien évidemment pas que l'hôpital d'Eydie, est grave et multiforme. Une crise économique avec des déficits non contenus, une crise sociologique avec un personnel hospitalier démotivé et une perte d'attractivité de l'hôpital public pour les professions médicales, et enfin une crise de qualité avec un problème de sécurité des soins, plus de 5 000 morts par an dues aux maladies nosocomiales. Le mal qui affecte le système hospitalier public est vaste et complexe. Avez-vous une opinion sur le sujet?
Alors, préalablement, et ça concerne le début de votre introduction, le collectif de l'hôpital existe depuis 1986. Il s'est créé alors que le préfet de la Drôme avait envoyé une lettre au président du conseil d'administration de l'hôpital de Die, lui disant à peu près ceci: je vous demande de faire fermer les 4 lits de maternité d'établissement d'ici le 1er mai 1987. Donc nous nous sommes battus et à l'été 1987, après plusieurs manifestations, plusieurs signatures de pétitions, le ministre est revenu sur la décision du préfet et m'a envoyé une lettre d'ailleurs, précisant, compte tenu de l'éloignement, compte tenu de l'attachement de la population à son hôpital, j'ai décidé de maintenir, c'est-à-dire qu'il reprenait tous les arguments que nous avions défendus.
Donc c'est pas récent
Donc, ça n'est pas récent.
qu'on défend l'hôpital de
Ça n'est
Lille.
pas récent. Et puis, il y a eu 91 où le directeur de la DAS a voulu fermer les urgences la nuit et les week-ends. Mais nous nous sommes battus, malgré un vote défavorable du conseil d'administration que je présidais. Et nous avons, encore une fois, réussi à gagner le maintien de la structure ouverte pendant 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Et puis il y a eu la dernière bataille qui a été conduite, je passe sur d'autres, hein, mais je prends les principaux points. Lorsque en 2008, le conseil d'administration, moins Bernard Condette et le pharmacien de Châtillon, dont j'ai oublié le nom, a voté donc, à la majorité, la fermeture des urgences et de la chirurgie d'urgence, pardon, et de la maternité au 31 décembre 2008. Donc, nous nous sommes battus, nous avons fait reculer la date au 1er juillet 2009 et puis enfin au 1er août 2011, où les renouvellements seront faits pour l'ensemble de Rhône-Alpes. Cela dit, rien n'est gagné et j'y reviendrai tout à l'heure.
Justement, alors, pour en revenir à ce problème complexe
Voilà.
et global, qu'est-ce que vous en
Voilà.
pensez, vous?
Alors, le complexe est global, bien évidemment. Il tient au fait que depuis des années, on veut réduire les dépenses de santé. Et donc, pour réduire les dépenses de santé, on réduit l'offre de soins. D'où les suppressions de lits, les suppressions de services, qui obligent les patients, les familles à se déplacer beaucoup pour aller vers un autre service qui n'existe plus dans l'établissement voisin. Ça tient également à la RGPP, la réduction générale des politiques publiques, où on ne renouvelle pas un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite, et donc un manque de personnel flagrant. Et partout, il n'y a qu'à voir ce qui se passe à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, c'est effarant. Des hôpitaux qui ont des maternités qui font 2 500 à 3 000 accouchements, on les ferme pour les regrouper sur d'autres établissements. Enfin, partout, partout, l'hôpital souffre, et en particulier ceux et celles qui y travaillent, depuis l'ASH, l'aide-soignante, l'infirmière, jusque aux praticiens qui, eux, n'ont pas les moyens de faire leur travail. Et surtout, un manque criant, criant, comme je l'ai dit au début de mon propos, du personnel, dû également à ce qu'on appelle le numerus clausus, mis en place en 1970, si mes souvenirs sont bons, et qui a réduit considérablement l'entrée dans les facultés de médecine.
Vous m'excuserez de faire de l'avocat du diable, mais malgré tout, très déplorable de réduire des considérations de santé à des considérations financières. Néanmoins, l'argent ne s'invente pas. Et donc, n'est-il pas normal d'essayer de chercher des solutions à un problème d'argent? On ne peut pas non plus sortir de l'argent de nulle part.
C'est un choix de société. Le choix d'une société solidaire, me semble-t-il, c'est de commencer par l'éducation et par la santé. Donc après, ça dépend des moyens qu'on veut y consacrer. Quant à ce qu'on appelle la crise, ça n'est pas la crise pour tout le monde, ça n'est pas la crise pour tous les établissements hospitaliers. Il y en a qui en ont profité, en particulier les banques et les actionnaires, pour récupérer des sommes astronomiques. Il faudrait effectivement faire cotiser ces revenus financiers.
D'accord, mais j'entends bien. Mais la vie, c'est le mouvement. L'hôpital, ce sont des énormes machines. C'est quand même relativement normal que d'essayer de les faire évoluer, de les administrer au mieux. Effectivement, ça ne devrait pas être au détriment des malades. Par exemple, Monsieur Bérgigna, lors de l'interview que j'ai eue avec lui, me parlait de ce qu'ils appellent les communautés hospitalières de territoire. Donc, essayer de regrouper les hôpitaux du Val-de-Drôme par compétence et en groupant les moyens. Qu'est-ce que vous en pensez?
Quand on dit qu'une loi telle que la loi Bachelot, dont un des piliers est la communauté hospitalière de territoire, peut être positive, j'ai énormément de doutes. J'ai suffisamment combattu le projet d'abord et la loi ensuite. Et je continue de la combattre avec mes amis du collectif de défense et mes amis de la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux de proximité, pour ne pas penser qu'il y a une volonté, encore une fois, de réduction des dépenses de santé, plus forte encore. Mais ça n'est pas inéluctable. Vous savez, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Hein? Et on a fait tout un tas de rapports pour montrer qu'il était bien que les malades puissent aller dans les grandes structures, etc., où ils étaient mieux soignés. Non, la preuve, ce sont les maladies nosocomiales. On a moins de maladies nosocomiales à l'hôpital de Die qu'on peut en avoir dans les grands hôpitaux. Donc, Die est très bien classé. Ce qui compte pour nous, c'est la proximité.
Est-ce qu'il y a moyen de travailler sur l'évolution de l'hôpital de Die? L'hôpital de Die est ainsi fait, il ne doit pas bouger? Je pense que ça se fait déjà, que les grosses opérations peuvent se faire ailleurs.
Non, l'hôpital de Die est forcément obligé de bouger, ne serait-ce que par le fait de la réduction du personnel dont je parlais tout à l'heure et du numerus clausus, qui fait qu'il y a de moins en moins de médecins, comme pour les médecins de ville d'ailleurs, hein, on le sait, hein. Donc, il y a nécessité de bouger. Il y a des techniques nouvelles, etc. Ce que nous proposons, ça n'est pas une communauté où l'hôpital tête de cette communauté tire à lui tout ce dont il a besoin, parce que lui aussi a des manques, mais au contraire, des coopérations entre ces hôpitaux. Et nous, nous proposons des coopérations entre les hôpitaux de Die, de Cré et de Valence. Mais pour pouvoir coopérer, il faut avoir les moyens de cette coopération. Il y a eu plusieurs réunions qui se sont tenues entre les instances de l'hôpital de Die et les instances de ces deux autres hôpitaux, et ça n'a rien donné. Pourquoi? Parce que Valence n'a pas les moyens. Un exemple, il y a sept anesthésistes de l'hôpital de Valence qui ont manifesté leur désir de s'en aller sur 13. Comment voulez-vous qu'ils puissent venir coopérer sur l'anesthésie avec Die?
Et pour quelle raison veulent-ils partir? Est-ce que c'est très désagréable là-bas ou...
Non, mais parce qu'ils en ont assez des conditions de travail, mais ils trouveront les mêmes conditions de travail ailleurs. C'est ça le problème. C'est comme ceux qui partent de l'hôpital de Die en se disant je trouverai mieux ailleurs. Non, les conditions de travail, vous l'avez souligné d'ailleurs tout à l'heure, sont les mêmes partout.
Et sur le fait de la répartition des compétences, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que, par exemple, l'hôpital de Valence pourrait faire tel type d'opération. Bon, évidemment, il y a certains services qui sont impératifs, du style urgence, maternité. Mais je sais pas, moi, ça me semble logique de répartir les compétences.
Il y a eu un projet de territoire qui a été fait, qui était piloté par deux experts, entre guillemets, qui avaient été nommés par l'Agence régionale de la santé. C'est tout dire. Donc c'était bien pour appliquer des orientations. Ces groupes de travail ont fait un travail remarquable, ont montré les potentialités qu'il y avait pour l'hôpital de Die, ont indiqué les coopérations qu'il pouvait y avoir avec d'autres hôpitaux, en particulier l'hôpital de Valence, qui est le plus grand hôpital. Et La seule réponse qui a été, au lieu de tirer la, je dirais, la quintessence de ce travail, ça a été de dire, eh bien, il faut faire un hôpital entre Die et Cré. On a avancé Saillant, puis on a avancé Oust, et maintenant, il est clair que Oust étant à côté de Cré, ce serait Cré. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est la proximité. Nous avons fait une carte qui montre les temps de déplacement, pas les distances, les temps. Parce qu'au-delà de 45 minutes, c'est extrêmement dangereux pour une femme enceinte s'il y a un problème de périnatalité. C'est dangereux pour un accident. L'hôpital de proximité a un rôle à jouer, d'autant plus par exemple pour la maternité, que celle de Die se trouve entre Gap et Valence, qui sont distantes 160 km. La maternité la plus proche est celle de Valence, 70 km. Imaginons les gens du Vercors qui descendent, les gens qui descendent de Saint-Dizier-en-Diois, qui descendent de Grimone, etc. Le problème que ça peut représenter, les risques que peuvent encourir les femmes enceintes. Et d'ailleurs, il est arrivé plusieurs fois que des femmes arrivent et accouchent en arrivant pratiquement dans la voiture. Ouais. Quant à la chirurgie, et je parle de la chirurgie d'urgence, parce qu'on peut toujours faire de la chirurgie programmée. Je ne citerai que le dernier exemple. Un jeune descendait la rue Camille Bifferdel, il a eu un grave accident de moto. Il a eu un éclatement de la rate et un éclatement du pancréas. Mais tout était prêt à l'hôpital de Die. Le bloc était ouvert, le chirurgien était là, l'anesthésiste, tout le monde était là. Et le jeune a été sauvé. S'il avait fallu appeler le SAMU, le temps que le SAMU arrive, il était décédé. L'importance que revêt un hôpital de proximité. C'est quand même un exemple concret de l'importance que revêt un hôpital de proximité.
Je vous propose d'écouter une très belle chanson d'Aléla Diane qui rappelle qu'il faut peut-être parfois une âme de pirate pour défendre son point de vue avec The Pirates Gospel.
We're gonna see.
De toute façon, l'hôpital de Die ne fermera jamais. Il y aura toujours un service d'urgence pour ce genre d'accident ponctuel.
Et non,
Moi, j'ai
non.
cru entendre dire cela, en fait, hein.
Ben non, parce que il y a eu, si je me souviens bien, en janvier 2010, un projet de décret qui proposait de fermer les blocs opératoires qui faisaient moins de 1500 actes par an. Ça représentait 182 blocs opératoires en France. Et puis, ça a bougé, il y a eu plusieurs gens avec l'action contre la réforme des retraites, etc. Et ils ont dû reculer et dire qu'ils allaient prendre le temps de la réflexion, comme on dit. Hein, voilà.
Ou baisser le
Et
nombre d'actes minimum au-delà duquel.
1500 et 10 doivent en faire 600. Il est clair que si on applique ce décret, le bloc opératoire étant fermé, le cas que je vous citais tout à l'heure, ça n'est pas possible d'intervenir puisque le bloc n'est pas activé.
Quand je vous dis ça, c'est parce que justement, lors de l'interview avec le maire, M. Berginia, il m'a dit qu'il y aurait toujours un service d'urgence à Die. Moi, je lui ai posé la question.
Ah, ça peut être un SMUR qui monte de Valence.
C'est quoi un SMUR?
Un SMUR, un service médical d'urgence qui monte de Valence. Un SMUR équipé. Mais j'ai quand même des doutes. On nous dit par exemple que la maternité n'est pas conforme parce qu'il faudrait un pédiatre. 24 heures sur 24, il y a un pédiatre. Mais même les grands hôpitaux n'arrivent pas à avoir un pédiatre 24 heures sur 24. Bon, il y a eu effectivement la nécessité de faire venir le SAMU par le biais d'un hélicoptère. Quelqu'un a demandé au médecin qui était là s'il était pédiatre. Et il a répondu, non, je suis anesthésiste. Voilà, je veux dire sans commentaire.
Si on devait résumer votre ressenti concernant l'avenir de l'hôpital, parce que c'est un sujet tellement vaste et complexe, vous pouvez me sortir plein d'anecdotes, je n'ai pas votre connaissance des dossiers. À votre avis, est-ce que vous pensez que des luttes locales peuvent changer la destinée d'un petit hôpital de proximité comme le nôtre?
Eh bien, je vous citais en avant-propos les luttes qui nous ont permis de maintenir la maternité par deux fois et les urgences ouvertes 24 heures sur 24 toute l'année. Ça me semble quelque chose d'important. Cela dit, ça ne change pas les orientations nationales. Et ce qu'il est nécessaire de changer, c'est la loi Bachelot. La loi Bachelot qui conduit tout droit dans le mur, qui va amener effectivement à quelques hôpitaux qui rayonneront sur des territoires qui seront immenses. D'ailleurs, pour les zones, les territoires de santé, nous en avions, si je me souviens bien, 8. Non, nous en avions 13 en Rhône-Alpes, hein, 13 pour 8 départements. Et nous passons à 5 territoires de santé. C'est-à-dire qu'on n'est plus par département maintenant, mais on est par deux départements. C'est-à-dire qu'on aura un hôpital qui sera là pour la Drôme et l'Ardèche, par exemple. Hein, je prends cet exemple-là. Et ça, c'est extrêmement dangereux. L'hôpital de proximité a un rôle à jouer qui doit lui permettre de répondre aux besoins en soins de la population. Or, ce n'est pas à l'hôpital de faire des grandes opérations, mais de pouvoir intervenir rapidement, que les femmes enceintes puissent accoucher. D'ailleurs, des femmes remontent de craie, ce qui montre l'attrait de l'hôpital de Die, qu'on puisse faire une intervention rapide, et puis tout ce qui ne peut pas être fait à l'hôpital de Die, eh bien, immédiatement, on appelle le SAMU.
D'accord, pourtant moi j'ai une citation de Madame Bachelot en 2008 qui dit que surtout pas je ne veux m'attaquer aux hôpitaux de proximité.
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce que vous pensez de cette réforme, à savoir de donner une prééminence au directeur de l'hôpital? On est passé d'un conseil d'administration à un conseil de surveillance, puis maintenant le pouvoir apparemment est plutôt concentré dans les mains du directeur de l'hôpital. Ça vous paraît salutaire?
C'est le deuxième pilier de la loi Bachelot. Le premier pilier, c'est réduire les dépenses de santé, donc faire des économies financières. Et on ne parle que finances quand on est reçu à l'Agence régionale de santé,
Avec la tarification à l'activité.
avec la tarification de l'activité. Le deuxième pilier, c'est de réduire la démocratie dans l'hôpital. C'est extrêmement grave. Nous avions des conseils d'administration qui comprenaient, parfois, a dit qu'il devait y avoir une quinzaine de membres, où tous les syndicats étaient représentés, les usagers, les médecins, etc. Et ce conseil d'administration était décisionnel. et le directeur mettait en œuvre les décisions du conseil d'administration. On a remplacé ces conseils d'administration par des conseils de surveillance. Qui dit conseil de surveillance, c'est après coup. Et ensuite, et on a réduit le nombre, tant et si bien qu'il y a aujourd'hui, dans les conseils de surveillance, il y a trois représentants de chaque corps, c'est-à-dire 9 membres. Et dans les usagers, par exemple, nous avions fait acte de candidature, le collectif de défense de l'hôpital, nous avons été recalés,
Donc vous n'êtes pas dans le conseil de
pas,
surveillance.
non, nous avons été recalés, pas par l'hôpital, hein, par le préfet, qui avait des ordres de ne prendre vraisemblablement aucun membre de la coordination nationale à laquelle nous appartenons. Et avant ce conseil de surveillance, il y a le directoire. Et le directoire est extrêmement restreint et donne les réels pouvoirs au directeur. Et c'est le directeur qui prend les décisions et qui ensuite dit, voilà ce que j'ai décidé, quel est votre avis? Après tout, on peut toujours demander l'avis, hein? Et après, c'est lui qui décide. Voilà. Alors, très très vite, ce ne sera vraisemblablement pas toujours si la loi était appliquée jusqu'au bout, parce que beaucoup de partis politiques de gauche ont indiqué qu'ils reviendraient sur la loi Bachelot. Mais si elle continue, on verra très bien que ce n'est plus le directeur, Bourdi par exemple, même, ce sera le directeur de Valence qui décidera pour l'ensemble de son secteur. Donc on voit bien où va la démocratie dans ces conditions. Alors qu'au contraire, il faudrait qu'il y ait plus de démocratie sanitaire.
On pourrait passer des heures, hein,
Oh
et
oui.
je suppose que vous êtes intarissable, mais pour que ça soit digeste pour nos auditeurs, qu'en est-il de l'avenir? Où est-ce que s'en est vos actions?
Voilà. Nous avons mené une action qui a été importante puisque dernièrement, c'était au mois de juin, nous avons manifesté, nous avons porté au sous-préfet de Die plus de 3 000 cartes pétition pour demander les moyens pour l'hôpital de Die, voilà, pour tous les services de l'hôpital de Die, parce que c'était une des premières nécessités. En même temps, nous avons mené la bataille depuis le mois de janvier contre la fermeture des blocs opératoires qui accomplissent moins de 1 500 actes. Les choses ont bougé sur ce plan. Ce n'est pas nous qui les avons fait bouger toutes seules, mais il y a eu dans toute la France les comités qui ont bougé, les syndicats, etc. Et je ne veux pour preuve que cette citation qui a été faite, c'était au mois de janvier. L'agence régionale d'hospitalisation anticipait déjà le décret sur les blocs opératoires. Et il y a eu des rencontres entre le directeur de l'ARH et les instances de l'hôpital de Die. Et le directeur de l'ARH a déclaré, la chirurgie ne passera pas les mailles du filet fin 2010 maximum, avec incidence automatique sur la maternité. Et nous arrivons à la fin 2010. Et la chirurgie d'urgence est toujours ouverte, et la maternité est toujours ouverte. Il y a donc bien eu là un recul, hein, qu'il faut apprécier parce que il y a eu le recul des projets de décret concernant les blocs opératoires.
Très bien, donc vous êtes toujours vigilant
Nous
et...
sommes toujours vigilants et nous allons continuer, bien évidemment, parce que la date butoir du 1er août 2011, elle sera vite là.
Est-ce que dans votre collectif, il y a beaucoup de gens qui se sont impliqués, les salariés de l'hôpital, des DIWA, est-ce que ça représente beaucoup de monde qui vous suit?
Il y a eu beaucoup, beaucoup d'implications. En témoigne la pétition que nous avions faite alors en 2008-2009, qui avait recueilli plus de 10 000 signatures. 10 000 signatures, c'est énorme, hein?
Voilà, sur le DIWA qui en
Et
fait 10 500,
oui,
tout le monde
mais
avait signé.
nous avons passé tout l'été sur le marché du samedi. Et nous avons eu énormément de touristes qui signaient la pétition parce qu'ils disaient, nous venons dans une région de moyenne montagne, nous avons besoin d'avoir un hôpital de proximité. Et l'office de tourisme lui-même dit que dans les demandes de gens, quand ils téléphonent pour savoir quelles sont les possibilités, il y a cette demande d'hôpital de proximité qui vient.
Je suis d'accord avec vous, il vaut mieux un hôpital. Je vous remercie d'avoir participé à cette petite interview.
Merci, vous aussi.
Puis je vous souhaite une bonne journée.